L'invité de la rédaction.
Et l'invité de la rédaction aujourd'hui est Pierre Besnehnou. Pierre Besnehnou, ancien président du Fonds social juif unifié, de la Fondation du judaïsme français, ancien président également du Congrès juif européen. Pierre, bonjour.
Bonjour Paul.
C'est un plaisir déjà de vous avoir et de pouvoir vous le dire. Alors ensemble, nous allons parler, si vous le voulez, d'un sujet qui crée en tout cas la polémique. Il s'agit d'un papier que vous avez publié, notamment dans la presse israélienne, qui fait grand bruit là-bas et qui commence à faire grand bruit ici, autour de la nationalité israélienne pour tous les juifs de diaspora. Alors tout commence avec évidemment l'épidémie de coronavirus. C'est un drame planétaire, c'est le drame que l'on sait. Et là, vous pointez du doigt quelque chose qui s'est passé, le fait que tous les Israéliens pouvaient rentrer évidemment dans leur pays, même s'ils n'étaient pas résidents, mais les Juifs de diaspora, non, ça n'était pas possible. Et donc, ce que vous pointez du doigt, c'est le droit du retour, c'est le principe même de la philosophie sioniste. Alors, vous pensez, vous, aujourd'hui, qu'il est indispensable ou en tout cas qu'il faut réfléchir à cette question d'une nationalité israélienne qui concernerait tous les juifs de diaspora?
Absolument. Et il est vrai que ça fait polémique, mais c'est un débat qui a commencé déjà il y a quelques années, en 2005, effectivement, quand j'étais président du Congrès juif européen. Le Premier ministre Ariel Sharon était extrêmement intéressé de voir comment les relations entre Israël et la diaspora pouvaient se renforcer. Et au fil de différents entretiens que j'ai eus avec lui, ma réflexion a posé d'abord sur le fait que si pendant 2000 ans, le peuple juif était resté uni, c'était évidemment grâce au temple, grâce à la synagogue. Et que depuis 1948, maintenant, il existe un deuxième pilier pour le peuple juif, d'avoir le sentiment d'appartenance à une même communauté, à un même peuple, c'est l'État d'Israël. Et dans cette réflexion, il était évident que se posait le problème de juifs en diaspora éloignés de la synagogue, mais proches d'Israël. À partir de ce moment-là, Ariel Sharon voulait que l'on essaye de réfléchir qu'est-ce que l'on pouvait faire pour les retenir, non pas seulement dans le judaïsme, mais autour de la notion d'appartenance à la nation, à l'État-nation Israël. Malheureusement, il est tombé malade. 2 ans après, le Premier ministre Olmert m'a chargé de présider une commission qui réfléchissait dans ce sens. Et nous avons abouti à la conclusion qu'effectivement, dans le changement des relations, la citoyenneté israélienne pour les juifs de diaspora était un sujet qui pouvait être un élément pour renforcer les liens avec la diaspora. Le coronavirus, comme vous l'avez dit très justement, a été, je dirais presque simplement, un déclencheur d'une réflexion qui était, encore une fois, une réflexion ancienne. Comment peut-on imaginer aujourd'hui, effectivement, de dire que Israël, la terre de tous les Juifs, pouvait refuser aux Juifs de venir s'installer pendant une période sans faire leur alia pour venir voir leurs parents, leurs enfants, qui eux étaient probablement israéliens, mais comme on a fermé les frontières aux non-israéliens, ça a déclenché à nouveau cette notion de séparation et de remise en cause, je dirais, du principe même de la loi du retour.
Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Certaines sont peut-être plus naïves. En tout cas, elles se posent. Est-ce que la nationalité israélienne était de fait donnée à tous les juifs de diaspora, ça ne bouleverserait pas l'échiquier politique israélien, puisque de fait, ils pourraient voter?
Alors, c'était la première réflexion d'Ariel Sharon. Je m'en souviens, c'était un soir dans son bureau, et ça a été sa première réflexion, sa première question. Là, il y a une réponse très simple. Il y a à peu près aujourd'hui 1 million d'Israéliens qui vivent en diaspora, qui vivent entre les États-Unis majoritairement, mais aussi en Europe. Ils n'ont pas le droit de vote. À la différence des Français qui peuvent voter à distance, les Israéliens qui vivent en diaspora n'ont pas le droit de vote. il n'y a pas de raison que si l'on attribuait ou l'on donnait la nationalité israélienne à ceux qui le souhaiteraient et qui vivraient en diaspora, il y ait la moindre influence politique à ce niveau-là. C'est comme le sujet des impôts. On m'a dit, mais où vont-ils payer leurs impôts? Un Israélien qui vit en Angleterre, en France ou en Allemagne paye ses impôts dans le pays où il est résident. Donc ce sont des sujets où effectivement, en première réaction, on peut se dire, mais leurs droits et leurs devoirs, ce sont ceux des Israéliens qui vivent aujourd'hui en diaspora et qui ont et des droits et des devoirs, mais qui n'influencent pas sur ces sujets le moindre équilibre.
Alors, vous connaissez, Pierre, évidemment, la France, vous la connaissez en profondeur, vous connaissez même ses arcades politiques. Le problème de la double allégeance, évidemment, va se poser, puisqu'il se pose déjà, puisque chaque juif est soupçonné déjà d'avoir des liens qui sont des liens plus que particuliers avec Israël, de préférer même parfois Israël à la France. Est-ce que ça n'est pas aussi une façon, finalement, de prendre en otage celles et ceux qui, juifs, ne souhaiteraient pas être amalgamé, le terme n'est peut-être pas le bon, mais disons que c'est celui-là et qu'on le met entre guillemets, avec celles et ceux qui le voudraient. Est-ce que ce ne serait pas une façon finalement de mettre tout le monde au même niveau et de relancer ce problème de la double allégeance?
Écoutez, je pense encore une fois que ceux qui feraient le choix d'obtenir la nationalité israélienne assumeront parfaitement leur double allégeance. Je me souviens, lorsque je vivais en France, effectivement, et que j'avais... dans des conversations, que ce soit avec des politiques ou avec la société française en général, souvent entendu, votre Premier ministre, M. Olmert, ou votre Premier ministre, M. Netanyahou, ou votre ambassadeur, M. Zvili. J'avais beau ne pas être israélien, le sentiment de double allégeance était quelque chose que, en tout cas aux yeux des autres, il y avait peu de doutes. Je dis simplement aujourd'hui, comme il existe des franco-britanniques, des italo-américains, pourquoi ne pas assumer mon sentiment, faisant partie du peuple d'Israël, d'être franco-israélien? Et je pense qu'au contraire, ça permettrait de décontracter ce sujet. Je me souviens d'une conversation avec Roger Kuckermann, qui était président du CRIF à ce moment-là et qui me disait, Pierre, sur ce sujet, ça va créer encore un malaise. Je lui disais, écoute, Roger, lorsque nous sommes dans une manifestation et qu'on chante la Marseillaise, tu le fais, je le fais avec ferveur. Mais si on chante aussi la Tikva, je n'ai aucun problème pour chanter aussi la Tikva. Si certains se considèrent exclusivement français, ils n'ont strictement aucune raison de chanter la Tikva. Mais encore une fois, ce sujet, il faut le voir de façon dépassionnée, décontractée. Et personnellement, j'ai le sentiment que, comme je vous le dis, les Italo-Américains n'ont aucune difficulté à se sentir et Italiens et Américains. Et les doubles nationalités, on peut en citer énormément. Je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre avec une certaine froideur, en tout cas.
Mais, pardon Pierre, d'essayer de mieux comprendre le fondement du propos. Vous parlez des Italo-Américains. Italien est une nationalité et Américain est une nationalité. Donc on peut avoir une double nationalité. Mais juif n'est pas une nationalité, juif est une religion. Alors là, c'est une religion avec une nationalité. Ce qui change quand même quelque peu la donne.
Il est évident que si on repose la même question en disant un Belge demande à avoir la nationalité bulgare, le Bulgare va dire, mais attendez, pourquoi est-ce que je vous donnerai la nationalité, à quel titre? Et cela peut ouvrir effectivement des réflexions tout à fait normales. Si vous considérez Israël comme un État comme un autre, je suis d'accord. Ça peut amener un amalgame entre juifs, Israël, mais Israël est un État particulier. Israël est l'État des Juifs. C'est l'État hébreu. Et je pense profondément, encore une fois, que le deuxième pilier que représente aujourd'hui l'État d'Israël, le ciment qui amène des Juifs du monde entier qui ne sont pas proches de la synagogue, mais ce ciment qui pourrait être un élément extrêmement fort pour rassembler le peuple d'Israël, et quelque chose qui doit être vu différemment, effectivement, de je suis juif ou je suis israélien. Je peux être franco-israélien et assumer en toute liberté cette double nationalité, cette double allégeance, mais surtout l'appartenance à un même peuple.
Alors, quand vous parliez tout à l'heure de la manifestation à laquelle vous assistiez avec le président du CRIF, vous avez dit oui, mais de toute façon, aux yeux des autres, c'est intéressant, ce « aux yeux des autres ». C'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'avec une telle possibilité, eh bien, aux yeux des autres, le juif soit d'une certaine façon stigmatisé une fois encore et ne puisse pas être considéré comme un Français à part entière, je mets le terme évidemment là encore entre guillemets, c'est-à-dire que on se construirait non pas avec mais contre, c'est-à-dire que on va se construire avec parce que aux yeux des autres on serait contre, on sortirait donc du domaine de la philosophie ou de la philosophie politique sioniste pour finalement se dire voilà, je suis une victime et il me faut un état de protection, je peux pas être un Français libre, je peux pas être un juif français libre aujourd'hui. Est-ce que finalement c'est ça que vous dites ?
Écoutez, là aussi je me souviens d'expériences personnelles. Lorsque je voyageais en Europe et que je rencontrais un certain nombre de dirigeants politiques européens, en particulier en Europe de l'Est, c'était toujours quelque chose d'un petit peu complexe. Alors, pour bien affirmer ma position de président du Congrès juif européen, je me souviens que selon les pays, moi qui ne mets pas de kippa, je mettais ma kippa. Lorsque l'on me disait votre premier ministre Olmert, j'assumais totalement mon premier ministre Olmert. Mais je peux comprendre aussi d'autres qui disent non mais attendez, ne confondez pas. Je suis français, je suis belge, je suis italien, mais je ne suis pas israélien. Et je suis juif parce que je vais à la synagogue. Je le comprends parfaitement et je le respecte. Mais je pense aussi que pour ceux qui se sentent profondément israéliens, et pas seulement juifs, le fait de pouvoir accéder à la nationalité israélienne va permettre, dans une certaine mesure, pour le français juif qui veut de façon très libre être simplement français juif, il l'assumera de façon parfaite aussi, en disant « mais attendez, je ne suis pas israélien, je pourrais être israélien, mais je ne le suis pas, je suis juif français ». Mais ça permet à celui qui a le sentiment d'appartenir au peuple d'Israël, et à cet État-nation de pouvoir le revendiquer de façon très, très, très ferme. C'est un paradoxe, mais moi je me souviens, à la fin de certaines conversations, j'assumais complètement d'être franco-israélien, je ne l'étais pas. Mais j'assumais qu'en tout cas, au regard des autres, j'étais israélien.
Mais en fait, quand on réfléchit bien et quand on voit vos propos qui sont des propos extrêmement distanciés par rapport à ceux qui se sentent et ceux qui se sentent moins, qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui ? Si aujourd'hui je veux m'installer en Israël, je peux tout à fait aller à l'agence juive ou aller directement en Israël et demander la nationalité israélienne et on va me l'accorder parce que je suis juive au nom de la loi du retour. Donc qu'est-ce que ça change finalement ? Quelle est la nouveauté de cette proposition ?
Je connais énormément de juifs dans le monde qui, malheureusement, ont très peu de liens avec le judaïsme, mais un lien très fort avec Israël, mais qui n'ont pas l'intention de faire leur alia, pour tout un ensemble de raisons, qu'elles soient économiques, familiales, sociales. Pour tout un ensemble de raisons, ce sont des personnes qui vivent en diaspora, qui sont très attachées à Israël, qui ne sont pas proches de la synagogue et qui auraient vraiment besoin, y compris pour leurs enfants, leurs parents, besoin d'affirmer une attache plus forte encore avec Israël. Je suis obligé de faire mon alia pour faire partie du peuple d'Israël. Je pense que c'est une notion qu'il faut faire évoluer. Elle a maintenant plus de 70 ans. Les relations entre Israël et la diaspora doivent se repenser. L'alia de masse est passé, le nombre de mariages mixtes est considérable, et si l'on veut effectivement moderniser décontracter la relation entre Israël et la diaspora, il faut faire évoluer cette loi. J'ai une fille qui vit à Paris et elle n'a pas l'intention de venir en Israël avec son mari et ses enfants. Je sais qu'il serait très fier d'être aussi israélien comme je le suis moi-même. Je connais énormément de gens qui assument leur attachement à Israël de façon très très forte, qui n'ont pas la nationalité israélienne, qui ne veulent pas venir s'installer en Israël, mais pour qui l'appartenance au peuple juif peut aussi se faire avec une confirmation, je dirais, administrative que représente le passeport et la nationalité.
Une toute dernière question, Pierre Besnehinou, parce que c'est compliqué de vous avoir avec nous sans vous la poser. Je me souviens qu'il y a quelques années, et ça avait fait grand bruit d'ailleurs quand vous l'aviez proposé, vous avez dit, mais finalement, dans les relations entre Israël et la diaspora, il faut peut-être repenser les choses. En temps, dans des temps reculés, la France a aidé Israël quand il le fallait et à hauteur du besoin. Aujourd'hui, il faut peut-être penser au fait qu'Israël peut également aider la France. Est-ce que vous êtes toujours sur cette position ?
Oui, plus que jamais. Là aussi, ça fait partie du rapport que j'avais remis au Premier ministre. Le nouveau paradigme, c'est effectivement de prendre considération que l'État d'Israël est devenu un État fort, que souvent les communautés juives en diaspora vivent dans des conditions relativement difficiles, et que fondamentalement, il est bien, comme geste sioniste, d'aider l'État d'Israël et en particulier certaines associations, mais que la responsabilité de l'État d'Israël pour les Juifs du monde entier est indiscutable. C'est très probablement un sujet qui est en train de revenir sur la table. Et vous savez, l'agence juive vient de créer un fonds juste après ce drame et cette pandémie, pour justement aider des communautés juives en diaspora. Vous voyez, le paradigme s'inverse. Ça avait choqué à l'époque, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et si en 1948, 98% du budget de l'État d'Israël était financé par la diaspora, si demain, dans le budget d'Israël, 1% était dédié à aider les pauvres de notre communauté qui vivent dans différents pays, je pense que ce ne serait que justice.
Une toute dernière question, Pierre. Est-ce que cette proposition que vous avez faite, est-ce que ce papier que vous avez écrit, qui donc fait grincer quelques dents en Israël, comme en France d'ailleurs, a été lu à l'étranger? Est-ce que vous avez, alors on connaît toutes vos connexions à l'étranger, est-ce qu'il y a eu d'autres échos, par exemple aux États-Unis? Est-ce que ces échos ont été les mêmes que qu'en France? Est-ce que les dents ont grincé dans le même sens?
L'ambassadeur des d'Israël aux États-Unis, à New York, en fait, aux Nations Unies, Danny Danon, m'a appelé la semaine dernière en me disant, écoute, ça ouvre une grande polémique puisque l'article a été publié dans le Jerusalem Post en anglais, et il me dit qu'il a reçu énormément d'appels de juifs américains qui lui ont posé la question s'il était possible d'avoir la nationalité israélienne sans faire leur alia, et que c'est un sujet évidemment, qui semble intéresser énormément de membres de notre peuple. Le peuple d'Israël, essayons de redonner une dimension à cette notion qui n'est pas finalement aussi abstraite qu'elle a été pendant le coronavirus, puisque comme vous l'avez dit en introduction, Israéliens, vous pouvez venir en Israël, Juifs, vous ne rentrez pas sur la terre d'Israël. Ce que je comprends de la part des autorités, sur le principe de la sécurité, mais en même temps, sur la notion profonde du sionisme, je crois qu'il y a quand même un déclencheur, peut-être comme a été le déclencheur pour Herzl de l'affaire Dreyfus. Il y a eu un déclencheur cette fois, pour la première fois, où on a dit aux Juifs, vous ne pouvez pas rentrer en Israël, vous rentrerez en Israël que si vous acceptez de vous installer en Israël. Et la notion du peuple juif, en tout cas, me semble-t-il, a été extrêmement ébranlée.
Merci infiniment, Pierre, d'avoir été avec nous. Notre invité, donc, Pierre Besneinou, ancien président du Fonds social juif unifié, de la Fondation du judaïsme français et du Congrès juif européen.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.